CO2 Mon Amour, avec le WWF. Construisez un avenir où l'homme vit en harmonie avec la nature. Plus d'infos sur les dons, legs et assurance vie sur www.fr.
On n'a pas acquis l'idée que nous faisons partie de la nature par notre corps, qu'il n'y a pas la nature et nous séparés, et qu'en réalité, cette sensibilité qui devrait être au cœur de chacun n'est pas là.
CO2, mon amour.
Moi, je ne peux pas vivre si je suis séparé de la nature, je ne pourrais pas exister. La nature, c'est l'ouverture vers ce qui est plus grand que nous, et c'est ce que nous n'avons pas créé, nous.
Denis Chessou.
Et nous devons donc être modestes, parce que ce n'est pas nous qui avons fait la nature.
Excellent week-end de la Pentecôte à tous. Bienvenue à tous et à toutes dans ce magazine de nature et d'environnement. CO2 Mon Amour, l'émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature. Émission un peu écourtée aujourd'hui pour cause de législative. Et à France Bleu Lorraine à Metz, merci à Nicolas Crutten qui nous accueille avec Laura Bonin à la technique. Assistée de Elisa Mchin, c'est Xavier Pessugia qui réalise l'émission. Mais avant de parler de Jean-Marie Pelt et de la Moselle, je vais me régaler. Je vais continuer à monter, à lécher, puis bastonner et avaler vos côtes, vos îles du Pacifique. Déplacer vos populations, je vais saliniser vos eaux douces. Un cadeau, ce Trump, pour les mers. Je vais me régaler, cycloner, typhonner, sucer vos banquises comme un doux esquimau que j'avalerai aussi, je vais désertifier. Un cadeau, ce Trump, pour les terres. Je vais vous allumer, incendier vos coteaux, vous fabriquer encore plus de migrants qui viendront révolter, s'enchaîner aux grilles de vos châteaux. Un cadeau, ce Trump, pour la misère. Je ferai rissoler la terre, comment vous la voulez, hein, à point, mi-cuite comme un foie gras, saignante, oui, saignante. Un cadeau, ce Trump, pour les guerres. Alors oui, moi contre le reste du monde et le climat, l'universel connaît pas. Bon, alors d'accord, mais on va quand même se calmer. Climato-sceptique revendiqué, on le sait. Trump devra quand même s'armer de patience, on l'a très bien compris. Dénoncer l'accord de Paris, d'accord, mais il faut quand même 3 ans minimum. Et puis un préavis d'annonce qui veut dire que les États-Unis pourront donc sortir de cet accord en novembre 2020, moment de la prochaine présidentielle américaine. Alors oui, Trump est un accélérateur climatique qui tuera aussi sûrement que les perturbateurs endocriniens nos enfants. Mais Trump n'est pas l'Amérique. Les Américains ne sont pas tous comme Trump. Il fait juste de la politique intérieure. Et puis, en même temps, vous voyez le maire de Pittsburgh, donc État minier, qui dit moi, je continuerai quand même à appliquer l'accord de Paris. Emmanuel Macron parviendra peut-être à fédérer donc le reste du monde contre le président américain et l'Union européenne devra accélérer le mouvement et ce sera peut-être une opération tout à fait positive. Alors on fera sans lui, oui, mais l'avenir dépendra quand même du fonds vert que nous abonderons ou non en faveur des plus pauvres et aussi du prix du carbone. Dites donc mon amour, l'info tournerait pas autour du CO2 en ce moment ? Alors vous l'avez compris, donc nous sommes aujourd'hui donc à Metz, à deux pas de la gare, jolie, massive, hein, bien massive la gare de Metz. 150 ans du jardin botanique de Metz, donc nous sommes en Moselle et là, on va parler évidemment de Jean-Marie Pelt qui est un médecin sûrement un des plus connus, qui était ce botaniste génial qui nous a quittés donc au mois de décembre 2015 et qui adorait évidemment cette nature. Et il aimait beaucoup aussi ce jardin botanique. On va dire que c'est une espèce d'alphabet, un jardin botanique. C'est un livre dont on peut pas exactement se passer et c'est aussi une base et un lieu de recherche. À nos côtés, quelqu'un qui a très bien connu Jean-Marie, c'est Jacques Florentin. Bonjour Jacques Florentin.
Bonjour Denis.
Vous êtes le président de la Société française d'ethnopharmacologie. Vous êtes aussi, vous connaissez bien l'Institut européen d'écologie. Mais qu'est-ce que l'on peut dire justement sur la notion de jardin botanique, s'il vous plaît.
C'est très important quand vous pensez qu'il y a 150 ans, la ville de Metz avait déjà un jardin botanique, c'est-à-dire qu'elle s'intéressait aux plantes, mais pas seulement aux plantes de chez nous, aux plantes exotiques, puisque les collectionneurs, les botanistes, les jardiniers essaient de rapporter des plantes exotiques. Et oui. On a un certain nombre d'arbres qui ont plus de 150 ans. C'est tout à fait extraordinaire, des arbres exotiques, comme le ginkgo, par exemple, qui est arrivé d'Asie. Bon, c'est un grand médicament aussi pour les vaisseaux, à la fois les artères et les veines. Et ce jardin fête aujourd'hui ses 150 ans avec l'idée de continuer à le développer un petit peu partout. Et je pense que Jean-Marie Pelt a été un des artisans de faire de Metz cette ville verte que tout le monde reconnaît aujourd'hui parce qu'il avait compris que la nature en ville, c'est un besoin physiologique fondamental pour l'homme. Besoin de se ressourcer, besoin de s'oxygéner. besoin, parce qu'on fait partie de la nature.
Alors vous êtes aussi donc un élève de Jean-Marie, je le disais, donc aujourd'hui vous êtes pharmacien, vous avez écrit du bon usage de l'aromathérapie aux éditions Ouest France, et puis donc à nos côtés aussi Paul Couturiot qui est romancier, qui a écrit un très bon livre sur Jean-Marie Pell, L'âme de la nature, donc c'est un document aux éditions Genèse. Eh oui, bah ça va bien là aussi avec Jean-Marie Pell. Bonjour Paul Couturiot.
Bonjour Denis.
J'allais dire, en quoi Jean-Marie Pell était profondément lorrain? Je veux dire que c'est un homme qui est né donc à Ronnemac, on est au pays ce qu'on appelle les trois frontières, c'est-à-dire que vous avez le Luxembourg d'un côté, l'Allemagne et puis donc la France de l'autre. Il était évidemment européen convaincu, on sait qu'il a travaillé avec Robert Schumann, mais en quoi était-il profondément lorrain? Il avait besoin de cette terre de Lorraine.
Mais déjà, il attachait une énorme importance à la terre. La terre, celle qu'on prend entre les mains, puisqu'il a grandi près de son grand-père, qui lui a donné cet amour de la nature en lui racontant des histoires, en l'initiant à la connaissance des plantes. Et il avait un tel amour de ce grand-père que je pense que ça s'est répercuté sur cet amour de la nature qui lui a été transmis. En plus de ça, Jean-Marie est aussi quelqu'un qui a cette présence, comme vous le disiez, d'un côté le Luxembourg, l'Allemagne, la Belgique, la France, enfin le pays des trois frontières, là on est presque à quatre dans ce coin-là. Donc il était profondément terrien, profondément européen aussi, et son amour s'est exprimé à travers ses chroniques qu'il faisait régulièrement avec vous, et à travers ses livres, à travers son travail et son engagement.
Et alors c'est vrai que vous avez bien fait de rappeler donc l'histoire de ce grand-père à Ronnemac, parce que vous l'avez très bien dit. Donc à la fois il lui avait appris donc l'amour des plantes, il lui avait appris le petit Jésus, donc la foi, et puis aussi l'art de raconter. Et l'art de raconter, on va retrouver donc Jean-Marie, c'est dans son jardin, ce que nous avions tourné Allez, je crois que c'était à peu près il y a 2 ans, donc nous sommes chez lui à Altrof, et voilà comment ça se passait en improvisation quasi totale avec Jean-Marie.
Ici, on se laisse quand même bercer encore par la douceur de ce vent là qui est délicieux sur le plateau lorrain. On voit votre voisin au loin avec son tracteur.
Ah, vous connaissez pas cet arbre-là, hein?
Je crois que si, mais bon.
C'est un néflier. Ouais. Oh, vous savez, c'est une plante qui n'est pas considérée comme une plante reine des vergers. Elle est marginale. C'est une marginale. Alors elle a une étonnante caractéristique, c'est qu'elle porte des fruits, les nèfles, qui ne sont comestibles que quand il a gelé. Elles ont besoin d'avoir subi du gel, et puis un vrai gel. Et puis dans ce fruit, il y a plusieurs noyaux, très durs. Alors, c'est un fruit qui vient de la formidable et grande famille des rosacées, qui est la famille de la rose, où, en fait, c'est le ventre de la fleur qui a grossi. La fleur, elle est au-dessus, et le pédoncule a grossi. Hein? Et donc, c'est une sorte de fruit venant d'une fleur qui est obèse. D'accord. Voilà, c'est le néflier. Je l'aime bien, moi, parce que c'est une pauvre petite plante. Alors, je lui dis, néflier, je t'aime.
Aujourd'hui, on sait que l'on va quand même gentiment dans le mur d'un point de vue écologique. On bouge, oui, mais on bouge quand même relativement peu.
Écoutez-moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il y a d'innombrables grands messes de l'ONU. Il y a à chaque fois des dizaines de milliers de personnes à Rio ou ailleurs. Il y a ensuite l'implication de l'Union européenne dans l'écologie avec les grands programmes du style REACH pour les molécules chimiques, pour évaluer leur toxicité, aussi pour Natura 2000, pour protéger des espaces.
Il y a aussi beaucoup de freins de la part quand même de la Commission européenne dans certains cas. Hein,
si... Tout à fait. Alors il y a évidemment les lobbies qui veulent perpétuer une agriculture qui est maintenant complètement dépassée. Parce que l'agriculture qui a suivi la révolution verte n'a pas produit tous les bénéfices qu'on en attendait et nous a pollué les terres, l'environnement avec les produits chimiques. Donc voilà, il faut changer ça. Mais là, l'Union européenne traîne la patte, vraiment. Alors il y a l'État qui prend beaucoup de lois, de décrets, d'application des lois, d'arrêtés dans les communes. Tout le monde est mobilisé. Alors, mystère, comment se fait-il que tout le monde est mobilisé et que ça n'avance pratiquement pas? Moi, je crois que je sais pourquoi. C'est parce que on n'a pas acquis l'idée que nous faisons complètement partie de la nature par notre corps, qu'il n'y a pas la nature et nous séparés, et qu'en réalité, cette sensibilité qui devrait être au cœur de chacun n'est pas là. Mes amis que j'adore, qui sont mes anges gardiens, et qui conduisent ma voiture, puisque je ne conduis plus, quand nous sommes sur les autoroutes, Jean-Marie...
Il s'appelle Jean-Marie aussi,
c'est oui, pour ça. Oui, c'est un autre Jean-Marie. Jean-Marie ne voit que les voitures. J'ai jamais entendu dire, oh là là, oh que ces arbres sont beaux. Jamais, jamais. Or, je crains qu'il y a plus de Jean-Marie comme lui que de Jean-Marie comme moi. Et que c'est là le problème. Parce que la technologie, c'est ce que l'homme fabrique. Et alors on est béat d'admiration devant ce qu'on fabrique. La nature, c'est pas nous qui l'avons fabriquée. Elle est bien antérieure à nous. Nous sommes dedans. Bon, on considère que c'est un truc... Bon, c'est le décor, quoi. Enfin, là, je crois que cette sensibilité n'a pas encore complètement éclos et que, pour cette raison, beaucoup d'efforts aboutissent à de très petits résultats.
Jean-Marie Pelt, donc, dans ce jardin, chez lui à Altrof, sur le plateau Lorrain, qui nous servait de studio. Bah oui, c'était le studio en plein air. Et, non, mais c'est vrai qu'il est d'une justesse quand même assez folle, Paul Couturiot. Et alors, je crois qu'une fois, on lui avait proposé d'aller aux États-Unis pour enseigner ou autre chose. Qu'est-ce qu'il a répondu?
Mais en fait, c'était au lendemain de l'aventure des plantes.
Oui,
qui a eu un tel succès.
Que l'on retrouve sur le site de l'INA, je tiens à le dire. Parce que,
exactement. Ouais, ouais. Et on lui avait fait les Américains lui avaient fait un pont d'or pour qu'il vienne faire la même chose avec des moyens à Hollywood. Et il a dit, vous pouvez m'emmener ma terre de Lorraine avec vous? Non? Alors je n'y vais pas.
Tomates espagnoles, plutôt pas mauvaises. Hein. Si on prenait le vignoble à zéro,
On pourrait faire un vin magnifique.
CO2, mon amour.
Mais il y a tout ici, y a absolument tout. Il y a des bois, il y a les vignes, il y a les fruits, il y a les légumes.
Il y a même une source.
On pourrait faire un très grand potager là-bas.
Ouais.
Planter des pommiers, des poiriers, un peu de blé.
Oh, je ne suis jamais senti aussi jeune depuis 30 ans.
Avec Denis Chessou.
Vive la révolution !
Vive la révolution !
La révolution !
Vive la révolution !
Sur France Inter.
Et voilà, mais oui, mais ici, en Moselle, à Metz, sur le plateau Lorrain, vous avez tout, vous avez les vignes de Moselle, alors là, pas sur le plateau, hein, quand même, effectivement, sur les bords de la Moselle, vous avez les mirabelliers, alors, oui, c'était une année à Mirabelle, mais il y a eu le gel comme partout, donc ils sont pas forcément en pleine forme, mais il y avait quand même des mirabelles, et puis il y a bien sûr Jean-Marie Pelle qui connaissait très très bien Corinne Lepage, ils étaient extrêmement liés, donc avocate que vous connaissez, et voici ce qu'elle dit de Jean-Marie Pelle.
C'était d'abord un merveilleux ami, un inspirateur, et je dirais un sage, quelqu'un que je pouvais appeler au téléphone pour lui dire « Écoutez Jean-Marie, là, j'ai un problème, qu'est-ce que vous pensez de ça? Comment vous verriez les choses ?» Il me répondait toujours avec sa bienveillance, son intelligence, sa chaleur. « Ma petite Corinne, voilà ce qu'il faut faire. »
Il avait cette hauteur. Il avait ce côté philosophe du XVIIIe siècle.
Oui, on a eu le bonheur avec mon mari Christian Huglot de le recevoir plusieurs fois chez nous, en vacances, pour des périodes de quelques jours, 3 jours, 5 jours, 8 jours. Donc ça permettait d'échanger bien sûr beaucoup. Et il racontait toujours qu'il avait vécu le XIXe, le XXe et le XXIe siècle. Parce que pendant la guerre, il était réfugié dans une ferme où il y avait ni l'eau ni l'électricité. Et où il y avait l'impression de vivre comme on vivait au XVIIe siècle. C'était pas très différent. Puis ensuite, il y a eu le XXe, puis le XXIe siècle. Et donc, cette expérience de vie un peu particulière s'ajoutait au fait qu'il était un honnête homme, au sens effectivement classique du terme. C'est-à-dire un homme qui avait une connaissance étendue de différents domaines. C'était pas un homme de silo en termes scientifiques.
Un humaniste. Hein.
C'était un vrai humaniste. Il était philosophe. C'était un très bon spécialiste de sa spécialité. Mais au CRIGEN, il était capable d'entrer de plein pied dans d'autres domaines.
Alors là, on est évidemment dans l'apport de Jean-Marie et de ce qui nous reste. Le CRIGEN, rappelez-nous ce que c'est.
Alors le CRIGEN, il est né en 1998, de discussions que nous avons eues avec Jean-Marie, Gilles-Éric Serralini, chez Jean-Yves Cajga, au festival de Cavaillon. À l'époque, c'était à Cavaillon. Je venais de sortir du gouvernement. J'avais obtenu ce moratoire sur les OGM de la part du président de la République, moratoire dont Jean-Marie m'avait convaincu, je sentais la nécessité d'un organisme qui soit indépendant. Et donc on a beaucoup discuté et on a monté tous les trois le CRIGEN, avec l'aide à l'époque de Chantal Jacquet, qui était la directrice du développement de Carrefour, et qui avait lancé une filière sans OGM à Carrefour, ce qui était, culotté pour l'époque. Et donc le CRIGEN existe heureusement toujours aujourd'hui et on le doit en partie à Jean-Marie.
Et le but du CRIGEN aujourd'hui donc ?
Ben, le CRIGEN s'est un peu diversifié, c'est-à-dire qu'il ne travaille plus seulement sur les OGM mais d'une manière plus générale sur les pesticides. C'est un organisme assez particulier parce que je ne crois pas qu'il y en ait d'autres de cette nature. Il y a beaucoup d'associations qui se battent, je pense à Génération Future par exemple, contre les pesticides, mais c'est, à ma connaissance, en Europe, et je crois dans le monde, le seul organisme composé d'experts non dépendants, c'est-à-dire non liés par des intérêts financiers à des firmes, à grosses semencières, globalement, en capacité de faire des études, de les faire publier dans des revues publiées par des pairs, et donc de faire évoluer la recherche dans le bon sens.
Et alors, sinon, d'une façon plus générale, comment il voyait ce monde évoluer ? En même temps, il y avait cette foi dans la vie, cette foi personnelle, et puis quand même un regard aussi un peu acéré sur l'évolution.
Il était très critique sur la technoscience, disons, en règle générale. Il était antinucléaire, pour appeler un chat un chat, très opposé aux OGM. Mais en même temps, c'était un homme très curieux des technologies, très curieux de l'évolution des choses, toujours, je dirais, à l'affût de nouvelles études, de nouvelles connaissances. Donc c'était un peu ce mélange, c'était un homme de science. Hein. Mais, je dirais, son humanisme était un frein à l'adoption d'un certain nombre de technologies dont il considérait, et je pense qu'il n'avait pas tout à fait tort, qu'elles entraient en pleine contradiction avec l'humanisme.
Témoignage donc de Corinne Lepage que j'ai enregistré donc cette semaine. Alors c'était, Jean-Marie, c'était quelqu'un, quand on le connaissait, qui supportait très mal, on va dire, le conflit de façon individuelle. Mais alors face aux décideurs, face aux politiques, à d'autres personnes qui pouvaient détruire la nature de toute obédience, il pouvait démonter la mécanique des OGM, des pesticides, des nucléaires. Il avait des vrais combats qu'il a eus avant tout le monde.
Mais pour moi, c'est Jean-Marie était un guerrier débonnaire, je dirais. C'est-à-dire que quand on est face à lui, même si on est en désaccord, il va toujours trouver la qualité à son adversaire qui va faire qu'il n'y aura pas de conflit.
Ouais, c'est vrai.
Alors que dès que on entre dans la défense de la terre, dans la défense des idées, là, il y a plus aucune retenue de sa part. Il devient le guerrier. Il oublie le débonnaire.
Alors, on va poursuivre donc ce voyage avec lui, donc avec vous, Paul Couturier, aussi Jacques Florentin. Et là, bien sûr, puisque nous sommes à Metz, eh bien, allons-y. On va retrouver Jean-Marie. Alors ça, c'était il y a peut-être 8 ans que j'avais tourné donc ce sujet-là. Donc, nous sommes au cœur de la ville qu'il a profondément aimée. Donc, cette ville de Metz où nous sommes, 120 000 habitants. Aujourd'hui, c'est Metz Métropole. Je crois que c'est pas loin de 400 000 habitants. On est au confluent de la Seille, de la Moselle, métropole religieuse. Et Jean-Marie a été quand même maire adjoint, premier maire adjoint en charge de l'urbanisme durant 2 mandats, un des créateurs de l'écologie urbaine.
C'est un grès qui est utilisé depuis 2000 ans, parce que les Romains l'utilisaient déjà. Et ce grès fait que toute la ville a cette couleur et qu'en fait, c'est une pierre blonde. Donc on peut dire que comme Toulouse est une ville rose, Metz est une ville blonde. Pendant la période où les Allemands ont occupé Metz, l'annexion de 70 à 1919, ils ont utilisé une pierre venant des Vosges, qui est un grès rose. Donc la partie germanique de la ville est en grès rose. Et cette partie germanique est particulièrement intéressante parce que le Kaiser a voulu montrer qu'il était ici chez lui. Ouais. Il a fait cette gare monumentale, cette poste monumentale. Le Kaiser Guillaume II a fait mieux ici qu'il a fait dans n'importe quelle autre ville d'Allemagne.
Alors Jean-Marie, cette ville, pendant, on va dire, 2 mandats, vous avez été donc adjoint au maire, et vous avez été un des premiers à lancer ce qu'on appelle l'écologie urbaine, qui était un ovni total, quoi, dans les années 70. Donc en quoi ça consistait ?
C'était l'idée qu'une ville n'était pas vouée automatiquement au béton, et mais ça avait de vastes ambitions. Et ces vastes ambitions ne pouvaient vraiment réussir que si on détruisait toutes ces affreuses vieilles maisons. En fait, ces affreuses vieilles maisons étaient des maisons du Moyen-Âge, extrêmement typées, très originales, avec des toits en pointe de diamant, comme on en fait qu'à Metz, qui est spécifique du style messin. Alors, on a donc dit qu'on allait restaurer le patrimoine ancien, qu'on allait restaurer les grands monuments, qu'on allait faire rentrer la nature en ville, qu'on allait faire rentrer l'eau en ville, et qu'on allait faire une très belle harmonie entre la fameuse pierre blonde, entre l'eau abondante, puisqu'il y a la Seille, la Moselle et tout un chapelet d'îles, il y a beaucoup d'îles, et puis la verdure, parce que l'environnement immédiat de l'hypercentre est très vert. Et on a donc marié ces 3 éléments pour faire ce qu'on a appelé une ville-jardin. On a inventé les premiers en France, les rues piétonnes à Rouen. C'était les 2 premières rues piétonnes, la rue du Gros Horloge et ici la rue Bonne-Ruelle. On a inventé des minibus qui empêchaient les gros bus de circuler en ville. On a inventé le tri très tôt des déchets. Donc on a décliné en gros les différents aspects de l'écologie. Mais enfin, il faut bien se souvenir que c'était il y a 35 ans. Nous étions très très en avance.
On arrive de nouveau devant la cathédrale, éclairée maintenant, avec les vitraux mis en évidence.
Oui.
Ah, c'est vrai qu'elle est belle.
Oui, les vitraux sont éclairés de l'intérieur.
Ouais, 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 ouais.
Et alors, il y a des vitraux du XIIIe siècle jusqu'au XXe siècle. Et au XXe siècle, il y a notamment les Villon et les Chagall. Et il y a plusieurs très beaux Chagall.
Excusez du peu, quand même. Hein.
Donc, elle a aussi une caractéristique, cette cathédrale, c'est qu'elle a 6000 mètres carrés de vitraux. Elle est donc très éclairée. Et on l'appelait la lanterne du bon Dieu, parce que éclairée du dedans, elle éclairait aussi le dehors.
Voilà, promenade donc avec Jean-Marie Pelle dans sa ville de Metz, avec la cathédrale Saint-Étienne, cette pierre de Jaumont, donc très très belle, cette coloration, évidemment avec le grès dont il a parlé, le grès rose, donc amené par le Kaiser, et puis quand même, Jacques Florentin, l'Institut Européen d'Écologie, donc il a créé en 1971, qui était son lieu, avec ce cloître superbe des récollets, avec ses plantes médicinales, qui viennent aussi de ce fameux jardin botanique, hein, c'était ça. Alors qu'est-ce que l'on a fait? Parce qu'aujourd'hui, donc, bien sûr que vous êtes aussi dans ce cloître des Récollets, qu'est-ce que l'on a fait dans cet institut européen?
Alors pour lui, c'était une grande aventure, mais ouais. Pas simple, parce qu'il était professeur à Nancy, je l'ai suivi pendant toutes mes études, j'ai travaillé avec lui depuis mon plus jeune âge en tant qu'étudiant, et il a quand même décidé de quitter Nancy pour venir à Metz, et il disait que la venue à Metz pour exercer à la fois un mandat politique de 71 à 83 et de créer cet Institut européen d'écologie était son chemin de Damas. Mmh. C'était son chemin de Damas parce que la ville était en danger. C'était l'époque où effectivement la voiture était reine, on prévoyait de mettre des pénétrantes partout, de raser les vieux quartiers pour monter des tours et des constructions qui étaient plus salubres mais esthétiquement très moches et on n'intégrait pas du tout la nature dans ces quartiers. Et donc il y avait un travail considérable et il a créé donc cet Institut européen d'écologie. Et là, l'originalité, c'est que les personnages au départ qui ont été les membres fondateurs étaient deux sociologues et deux pharmaciens. Donc il y avait Roger Klein et Marcel Robin, et puis Pelt et Joigny.
Alors qu'est-ce qui reste aujourd'hui, on va dire, de ce qu'il a... Parce qu'on y a fait quand même des recherches. L'ethnopharmacologie. Vous êtes aujourd'hui donc président de l'ethnopharmacologie, aussi donc en France. Qu'est-ce que l'on faisait?
Eh bien alors, cette ethnopharmacologie, elle est née d'un travail que nous avons fait ensemble. Et il a eu l'idée, effectivement, de me faire faire une formation en pharmacologie, c'est-à-dire étudier le mode d'action des plantes. Et l'ethnopharmacologie, c'est recenser partout dans le monde le savoir des guérisseurs et surtout apporter une réponse très simple. Ces plantes sont-elles efficaces, oui ou non? Alors, on s'est pas intéressé à la chimie des plantes dans un premier temps, mais on voulait savoir si elles étaient efficaces. Eh bien, dans 75% des plantes étudiées, on a une efficacité qui est identique à celle de médicaments de synthèse de référence. Donc, c'est extraordinaire.
Alors, quelles plantes, par exemple, sont passées au crible?
Ah ben on a eu des dans tous les domaines. On peut avoir des plantes dans le domaine de l'ulcère ou de l'inflammation. On a le réglisse. On peut avoir des plantes dans le domaine de la circulation veineuse. On a parlé du ginkgo tout à l'heure, mais aussi de la microcirculation cérébrale dans les ischémies. On a des plantes pour le stress, l'anxiété, comme les scolzias. En fait, à chaque symptôme, on a une réponse. Et toutes ces médecines traditionnelles sont d'une grande efficacité. Elles ne remplacent pas la médecine moderne, mais elles sont complémentaires.
Alors, un autre homme qui l'a très bien connu, c'est Marc-André Sellos. Bonjour Marc-André.
Bonjour.
Vous êtes professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle et professeur aussi à l'Université de Zgantz en Pologne. Vous êtes aussi le président de la Société Botanique de France. Alors, en fait, vous avez connu Jean-Marie Pelle, qui en plus a fait une préface aussi d'un de vos livres. Là, le prochain va s'appeler « Jamais seul ». Il sortira donc bientôt. Ces microbes construisent les plantes dans les lieux de coopération. On va revenir sur le mot de coopération, mais... Comment Marc-André Sellos, Jean-Marie Pelt, a amené les gens à s'intéresser à la botanique au-delà de l'aventure des plantes et évidemment de ce que l'on a pu faire à la radio?
Je pense que l'aventure des plantes, ça a été un premier épisode radical, oui. Complètement nouveau dans la forme. Après, on l'a entendu parler tout à l'heure, il y avait un cours sur le néflier, là, c'était émouvant de l'entendre. C'est un homme qui sait dire la plante, qui sait réveiller l'émerveillement devant les petites choses et qui finalement, il a il a permis finalement d'émerveiller le monde, de rendre ce monde vivant, perceptible, ce monde végétal, je veux dire. Et ça, c'est une des pierres finalement apportées à l'édifice de cette prise de conscience de l'environnement. Hein. En ce sens, il est toujours là, parce que cette prise de conscience qu'il a éveillée, elle est acquise maintenant. Le végétal, est, pour beaucoup d'entre nous, n'est plus qu'un décor. J'ai même des collègues hein, qui ont commencé leur premier pas de scientifique parce qu'ils ont entendu Jean-Marie Pelt parler de plantes.
Oui, donc il a vraiment suscité des vocations. Et alors c'était absolument aussi le promoteur des forces de la coopération, voire aussi de l'associativité dont il aimait bien parler. Il parlait aussi de... On a eu cette loi de la jungle, et il disait d'ailleurs très très souvent que ça avait été du Darwin mal digéré, on va dire, par Marx d'un côté, le capitalisme de l'autre. Lui, il parlait évidemment d'adaptation, c'était ça, et non pas la loi de la jungle. Mais donc, il mettait en avant les forces de coopération qui correspondaient, j'allais dire, au sourire optimiste et positif qu'avait Jean-Marie.
Absolument, bah, c'est lui, c'est sa vision du monde très très intégrée. Moi, je l'ai pas connu il y a très longtemps, hein. ça faisait peut-être 5 ans qu'on bavardait. Et moi, je travaille sur les associations entre des espèces qui coopèrent dans les écosystèmes et qui s'associent à bénéfice mutuel. Et ce qui est, quand on avait parlé, mais Marc-André, le monde entier est fait comme ça. Discussion en discussion, moi ça m'avait jeté des lumières sur le monde. On avait, il m'avait dégagé une des perspectives qu'on avait incarné d'ailleurs dans un colloque qu'on avait organisé à Brive sur l'associativité à toutes les échelles du Big Bang à l'homme. Comme quoi, bah, les atomes coopèrent pour faire des molécules, les molécules coopèrent pour faire des réactions complexes, les cellules coopèrent pour faire des organismes, les organismes coopèrent pour faire des sociétés. Enfin, et on avait plein de gens qui étaient venus nous apporter leur petite pierre à cette vision transcendante à toutes les échelles de coopération. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est moderne. Parce que la science commence juste à sortir effectivement du tout compétition, tout prédation, et à construire autour de ces associations positives.
Et donc, il nous disait bien que l'univers nous livre le sens que nous devons lui donner en retour. Donc, il avait beaucoup discuté avec Trinh Xuyen Thuan, donc cet astrophysicien merveilleux. Voilà. On avait fait une émission, d'ailleurs, effectivement, avec eux deux. Et là, il disait que la coopération naît aussi de l'univers, depuis le Big Bang. Et il y a un sens, une sorte de principe d'associativité, une union des éléments simples, puis complexes. Donc, il a amené cette affaire-là. Et d'ailleurs aussi, il a initié cela aussi à Pierre Rabhi, qu'il n'avait pas forcément vu. Un petit mot peut-être, je ne sais pas, vous avez une, je sais pas, peut-être une petite lumière qui vous revient de Jean-Marie au cours de vos entretiens.
Ah ben alors toujours à la fin de mes entretiens, bon, lui croyait en Dieu, moi pas. Ouais. Pour moi le ciel était vide. J'espère pour lui que je me trompe. J'espère qu'il en sourit là-haut. Et toujours, il me disait, ne t'inquiète pas, Marc-André, de toute façon, je prie pour toi. Mais il n'est pas parti, hein, parce qu'on voit très bien que son message est actuel. Et moi, les perspectives qu'il a dégagées pour moi dans la façon d'être par rapport au monde et dans la façon de voir le monde, elles sont encore vivantes. Et ça, je crois que voilà, son message est d'actualité. Il n'est pas mort.
Vous savez, en décembre 2015, on sa disparition, j'ai dû recevoir 600 mails. Il y en avait un qui était très joli et qui aurait beaucoup plu à Jean-Marie parce qu'il avait beaucoup d'humour et beaucoup de recul. Et en plus, bon, il vivait sa foi de manière personnelle. C'était pas du tout prosélyte, il s'en foutait, ça, c'était pas ça. Donc, vraiment pas. Je tiens à préciser aussi une fois de plus que c'était quelqu'un qui était anti-créationniste, hein, parce qu'on l'avait accusé fois, c'était des conneries. Non, vraiment pas. Et donc, il y a eu un mail délicieux. Il disait, écoutez, moi, je ne crois pas en Dieu, mais je crois en Jean-Marie Pelt. Voilà, et ça c'était quand même assez beau. Merci à vous Marc-André Séloge, je reviens vers vous aussi Paul Couturiot, donc avec cet ouvrage L'âme de la nature aux éditions Genèse. Et l'homme était, je parlais de Pierre Rabhi, il y a quand même une différence peut-être de fond avec Pierre Rabhi.
Oui, pour moi il y a une grande différence. Quand on a fait l'interview pour le film qu'on a réalisé avec Patrick Bassot,
il s'appelle Le jardinier du bon Dieu, je tiens à préciser qu'il passera sur France 3 Hauts-de-France lundi 5, donc ce lundi, France 3 Hauts-de-France, Le jardinier du bon Dieu.
Voilà, on a fait l'interview, ils étaient là tous les deux, et vraiment le sentiment que j'en ai retiré, c'est que Jean-Marie avait sans doute grâce à sa foi, alors que Dieu existe ou pas, ça c'est un autre problème, mais lui y croyait, ça lui donnait une foi, et du coup ça lui donnait une forme d'optimisme, et il avait foi en Dieu, il avait foi en l'homme. Ouais. Pierre Rabhi, je l'ai senti beaucoup plus, je dirais presque défaitiste, en tout cas pessimiste, et il n'y avait pas le même rapport à l'espoir et à l'espérance.
Alors le rapport à l'espoir, il avait aussi avec les jeunes, et ça c'était extrêmement important.
Alors il l'avait à deux niveaux. Déjà, pour lui, ça c'est un des apports lors de son mandat. Pour lui, un jardin d'enfants devait être vraiment un lieu où les enfants apprennent à découvrir la nature. Et il était très triste qu'aujourd'hui l'éducation nationale a peur de la nature. On n'ose plus sortir avec les enfants parce qu'ils risqueraient de se blesser, de se salir, d'être piqués par une guêpe, etc. Et il dit, bon, nous on a grandi dans la nature, lui il courait dans la nature, comme tant d'autres, on a peut-être eu les genoux écorchés, mais on est toujours vivant.
C'était
et peut-être en
de la
meilleure
vie,
santé que aujourd'hui avec le Roundup dans les,
oui,
les
ça, c'est,
compagnies.
C'est certain.
Voilà. Et donc ça, je pense que c'est un élément important. Et puis il avait aussi foi dans la jeunesse actuelle. Et on parlait de coopération tout à l'heure. Et quelque part, je me souviens de ce moment où, en discutant avec lui, il m'a dit, en fait, ce qu'il faut, c'est que nous apprenions à devenir comme l'oignon et la carotte.
C'est très, oui, parce que ça, c'était l'association qu'il y avait, hein, c'est ça, l'oignon et la carotte, oui, Jacques Laurentin. Oui. Donc, y a les deux, donc, coopèrent ensemble.
C'était... Voilà, c'est ça, il y a une coopération entre les deux et c'est intéressant de voir comment les plantes, effectivement, peuvent se développer mutuellement en coopération.
Alors ce que je vous propose, c'est de le retrouver donc maintenant de nouveau dans son jardin, donc tranquillement. Et ça changeait complètement, parce que c'était plutôt un homme du soir, Jean-Marie. Et là, bah, vous allez comprendre, je l'ai un tout petit peu tiré du lit.
Alors là, c'est le petit matin. Jean-Marie, vous n'avez pas forcément l'habitude. Hein,
donc... Ah là là,
ah
que
oui.
C'est tôt.
Oui, moins de 7 heures, là, vous voyez.
Ah là là, c'est épouvantable. Oh, c'est une cruauté extrême.
Oui.
Je me sens victime.
Mais malgré tout, puisqu'on vous a fait lever, dans votre bol de nature, que mettez-vous? Parce que nous sommes chez vous, là, dans votre jardin.
Et à 6 heures du matin, 6 heures et demie, là, il fait encore jour.
Oui.
Alors, il fait déjà jour. Alors, les petits oiseaux sont là. C'est mes petits oiseaux, c'est mes petits merles et c'est mes petites mésanges. Puis j'ai un merle qui danse, c'est une chose étrange comme tout. Il fait des danses comme les derviches tourneurs,
ah oui.
Vous savez,
oui,
en Turquie. Mais il danse comme ça, comme les chiens quand ils se mordent la queue,
oui.
Qui tournent en rond en se courant après leur queue. Eh bien, il fait ça, le petit merle. Et je trouve ça très beau. Et les petites mésanges, elles grimpent sur le chambranle de la fenêtre et elles viennent regarder ce que je fais. Alors je leur ai dit, regardez, j'écris. Voilà.
Oui.
Et ça les intéresse beaucoup.
Bien sûr.
Beaucoup, beaucoup. Elles sont passionnées.
Et puis elles ont appris à lire et à écrire.
Ah, bien entendu. Ah. On les a formées.
Uniquement les gros titres. Hein.
C'est ça. Oui. Et puis alors il y a les fruits.
Alors, oui.
Alors il y a les quetsch, qui sont des prunes spécifiques de la Lorraine,
oui.
Qui sont des prunes violettes, avec lesquelles on faisait autrefois de l'alcool, de l'eau de vie. Ah, maintenant on n'a plus le droit, parce que maintenant il s'est contingenté. Et on n'a plus le droit de faire d'eau de vie à l'œil avec ses propres fruits.
Voilà, alter-alcoolisme, c'était
oui,
ça.
Oui, c'était enfin, ça, tout à fait.
Puis Jean-Marie, il y a les noyers.
Oui, il y a les noyers, bien sûr, auxquels on est très attaché. Il y a les pêchers de vigne, et puis c'est la nature.
Oui.
Et on a besoin de ça. Moi, je ne peux pas vivre si je suis séparé de la nature, je ne pourrais pas exister. Je serais dans une sorte de claustrophobie, voilà, la nature c'est l'ouverture vers ce qui est plus grand que nous, et c'est ce que nous n'avons pas créé, nous. Et nous devons donc être modestes, parce que c'est pas nous qui avons fait la nature. Alors nous sommes très 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 fiers de nos technologies, mais la nature c'est bien aussi.
Jean-Marie, dans une société à la fois technicienne et qui est fondée sur l'économie aujourd'hui, le PIB, la croissance, que sais-je, quel peut être le signal envoyé par la nature?
Ben, le message, c'est que il faut pas la regarder seulement sur des écrans. Il faut aller dedans. Il faut ressentir le souffle doux de la brise, ce petit bruit très 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 doux qu'on entend quand on est dans un jardin, le chant des oiseaux, la beauté des fleurs, être dedans. C'est ça qui est important, parce qu'on en est très coupé. Notre génération est coupée de la nature. Nous sommes dans la précipitation, nous ne sommes pas dans les rythmes de la nature du tout, du tout, du tout. Nous sommes dans une agitation perpétuelle, une fébrilité extraordinaire, ce qui est contre nature. Et nous devons essayer de nous mettre avec la nature, et pas contre la nature.
Être exploitant, mais pas exploiteur.
Exploitant et pas exploiteur, absolument.
Bon, merci Jean-Marie pour ce petit bol de nature.
Voilà, merci.
Je
toujours un petit régal avec cet homme qui était un trois en un, c'est-à-dire un homme de science, un homme de foi, un engagement militant, et Jacques Florentin, donc aussi créateur de ces instituts européens d'écologie, donc on a parlé de l'ethnopharmacologie. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? C'est vrai qu'il est parti herborisé à une période, aujourd'hui on pourrait plus du tout aller dans ce croissant fertile du côté de l'Afghanistan, c'est ce qu'il me disait. Il me disait, je suis allé là-bas, je suis allé en Irak et tout ça, on pourrait plus du tout y aller aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui est important aussi à l'institut?
Ce qui est très important, c'est qu'au départ, c'était une véritable ruche dans laquelle il y avait des tas d'associations qui gravitaient autour, avec une quantité de travaux assez phénoménaux qui ont été produits à cette époque. Il lui disait, ma vie est un jardin, et moi je dirais, Jean-Marie est un grand jardinier, parce que les graines qu'il a semées ont tous donné des structures intéressantes. Il y a quand même eu des travaux sur le recensement des richesses naturelles de la Lorraine, il y a eu des travaux sur les éoliennes en 2003, on était quand même avant-gardiste, ah oui. Il y a eu tous ces combats contre les OGM, les pesticides, il y a eu...
Sur les OGM, c'était quoi? C'était des évaluations?
Alors, entre les OGM, les gains, c'était les premières alertes en 98.
Pour les OGM, pardon.
Les OGM, oui, voilà. Oui, c'est ça. Ensuite, il y a eu aussi les inventaires Natura 2000, donc à l'époque où effectivement l'Europe recensait les terres remarquables, sauvages, etc. Tous ces travaux émanaient l'Institut. Il a ensuite mis en place l'Université d'écologie avec deux nouvelles disciplines, l'écologie urbaine et puis l'écotoxicologie. Et la troisième, elle n'a pas été créée, mais elle a été fortement développée, l'ethnopharmacologie, avec maintenant des jardins. Alors, pour en revenir sur les fameux 150 ans du jardin, actuellement, c'est 600 hectares que la ville de Metz entretient, avec de nombreux jardins, dont un jardin qui est appelé maintenant le jardin Jean-Marie Pelt.
Et l'ancien jardin de la Seille.
Voilà, l'ancien jardin de la Seille, où là, c'est un esprit tout à fait différent des jardins classiques taillés au carré à la française. C'est un jardin avec des prairies sauvages, avec des fruitiers, etc.
C'est un jardin à la Gilles Clément, c'est un jardin en mouvement, quoi, en
oui,
gros.
C'est ça. Oui. Et puis qui est absolument extraordinaire à visiter. Et puis, il y a les fameux jardins qu'on a créés au Récollé, jardin des plantes médicinales et jardin des plantes toxiques et médicinales, où on peut faire tout un enseignement, y compris pour les enfants, pour les initier donc à toutes ces richesses du monde végétal. Et en fait, cette grande tradition des jardins, elle se perpétue, elle va se développer de plus en plus. Et on est vraiment dans une période où il y a une demande très importante des gens, de la population, de plus de nature, et aussi dans le domaine de la médecine, de plus de médecine naturelle. Et on est vraiment là pour répondre à toutes ces demandes. Et on est là aussi pour analyser et étudier toutes les plantes qui nous viennent maintenant des médecines exotiques. Médecine chinoise, médecine africaine, il y a des tas de plantes qui circulent et il est important pour nous de pouvoir donner des avis scientifiques circonstanciés.
Alors c'était aussi un très grand copain d'Hildegard von Bingen, qui était son ami visionnaire du XIIe siècle, qui avait quand même compris que l'homme provoquait ses maladies en rompant les règles de l'équilibre. Ça c'est aussi quelque chose de très important, c'est-à-dire qu'il savait que plus un milieu était riche, plus il était diversifié, plus il était en équilibre. C'était ça, quoi. Oui. C'était les règles de l'écologie.
Alors on parle aujourd'hui des huiles essentielles comme une découverte récente. Ça fait à peu près un siècle qu'on les utilise, ces fameuses huiles essentielles, l'aromathérapie. Mais il faut savoir qu'au IVe siècle avant Jésus-Christ, quand il y avait les grandes épidémies de peste, eh bien, les anciens faisaient brûler des plantes à essence, des lavandes, du romarin. Et donc, ces huiles essentielles sont antibactériennes. Donc, on ne connaissait pas les microbes, mais on savait que ça purifiait l'air. Et c'était pas faux.
Alors, il aimait les roses anciennes, hein. C'était une de ses plantes préférées, je crois. Oui. C'était vraiment celle-là.
Donc oui, il aimait les roses anciennes. Hein. D'ailleurs, il y a une rose qui porte son nom.
Et oui.
Et
oui.
Très prochainement, je crois qu'il va y avoir un dahlia qui va porter son nom.
Ah, un dahlia aussi. D'accord. Il va y avoir un dahlia Jean-Marie Pelt. Et alors, Paul Couturiot, donc, avec cet ouvrage, L'âme de la nature, ses Genèse éditions, vous mettez aussi en avant une phrase à la fin du livre. Bah, c'est vrai qu'il nous l'avait dite à vous, puis à plusieurs personnes, mais je crois qu'elle est très, très importante.
Alors, en fait, c'était la phrase de Jacques Monod, il serait urgent que les hommes décident de s'aimer pour de bon. Oui. Et pour l'illustrer, je me souviens d'un moment où on était dans son bureau, où on discutait, et il me disait, lui, le catholique, qu'il aurait pu être bouddhiste parce qu'il n'avait aucun désir. Et puis c'est repris, il a dit, si, c'est de rendre les gens heureux.
Merci beaucoup Paul Couturiot, merci à vous Jacques Florentin. Merci donc à Laura Bonin et Nicolas Cruten, à France Bleu Lorraine, à Metz de nous avoir accueillis, à Elisa Mchin, notre assistante, à Xavier Pissugia qui réalise l'émission et Muriel Pérez qui a choisi les disques. Vous avez le site de CO de Mon Amour avec des références sur Jean-Marie Pelt. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end.